The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.
Bonjour et bienvenue sur CNews. Cet après-midi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de 90 Minutes Info. Je vous présente le programme juste après. Un rappel des titres, bien évidemment, en compagnie de Somaïa Labidi aujourd'hui.
Le Louvre bloqué depuis ce matin. 150 grévistes du musée occupent la salle de la Joconde. Dans un communiqué, la CGT Culture dit affirmer sa solidarité avec les luttes des femmes en ce 8 mars et dénonce l'impact de la réforme des retraites sur la situation des femmes salariées. Top départ de la vente des billets pour les vacances d'été de la SNCF. Depuis 6 heures ce matin, les billets TGV Inouï, Intercité et Ouigo sont disponibles sur le site de la compagnie ferroviaire. Une vente qui concerne les trains circulant du 8 juillet au 3 septembre et jusqu'au 9 décembre pour les Ouigo. Record de fonte de la banquise en Antarctique au mois de février, un record confirmé par l'Observatoire européen du climat. Un phénomène inquiétant qui s'est intensifié depuis une dizaine d'années.
Merci beaucoup, Somaïa. Et dans cette édition, nous parlerons de la mobilisation d'hier émaillée de violence à Paris, notamment. Images de destruction, de prise à partie des forces de l'ordre également, avec plusieurs blessés dans leur rang. Et quelles sanctions à l'arrivée ? Et pendant ce temps, le dialogue est ouvert avec les syndicats, assure une partie de l'exécutif, mais un grand absent néanmoins dans cette séquence. Le chef de l'État, appelé à s'exprimer désormais, mais où est-il ?
Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive.
La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus qu'ouverte en fait. Nous, on est dans le dialogue.
Donc. 8 mars, combat sans fin pour les femmes. À quoi sert donc cette journée si elle n'est pas suivie d'effets ? Quand cela s'arrêtera-t-il ? Les violences conjugales, l'inégalité salariale, les retraites également, avec un angle mort, cela suffit.
Même quand on a un soupçon de volonté, en tout cas d'un soupçon de prise de conscience que c'est pas normal ce que l'on vit, et ben on a du mal à trouver une issue de secours. Moi, ce que je disais souvent, je me sentais enchaînée.
Et voilà, je vous présente l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Naïma M. Fadel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes essayiste. J'ai plaisir, grand plaisir à vous retrouver dans ce format d'émission. Bonjour Judith Weintraub. Je rappelle que vous êtes mon reporter au Figaro Magazine.
Bonjour
Merci,
Nelly.
D'être là également. Jean-Claude Dacier nous a
rejoint. Bonjour,
salut,
bonjour.
Jean-Claude. Et puis on accueille Benoît Mournet qui est député Renaissance des Hautes-Pyrénées.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va commencer par l'image déplorable évidemment que chacun retient de la journée de manifestation à Paris hier. Une voiture SOS médecin prise pour cible. Il s'agissait en fait de la voiture d'un médecin en intervention. Cet homme a pu être évacué sans blessure, mais les dégâts matériels, vous le voyez, sont considérables. Et puis surtout, l'image désastreuse, on va en parler juste après ce rappel des faits avec Marine Sabourin sur des images de Fabrice Elsner.
C'est une scène d'une grande violence qui suscite l'indignation. En marge de la manifestation, des individus masqués et encapuchés caillent à cette voiture garée depuis quelques minutes. Ils sautent dessus, puis brisent son pare-brise et ses fenêtres à l'aide d'un poteau de signalisation et d'un marteau. Son propriétaire arrive quelques secondes plus tard et brandit alors sa pancarte SOS médecin. L'homme est stupéfait.
Non, je suis SOS médecin, je suis en train de réguler, là, justement, des appels de gens en détresse.
Les casseurs prennent rapidement la fuite lorsque les forces de l'ordre arrivent, mais il est impossible d'arrêter les assaillants.
C'est devant ces individus-là, il faut être sans pitié. Ouais. D'ailleurs, on fait des bonnes charges républicaines. Et si on peut en choper un ou deux, on le ramène tranquillement. Mais je peux vous dire qu'il va le sentir un petit peu. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable que des personnes comme ça viennent gâcher des messages qu'on fait passer à l'exécutif. Ils sont en train de prendre en otage, justement, ces manifestations. Et on ne peut pas laisser passer ça.
Le ministre de la Santé a condamné ces faits sur Twitter.
Le droit de manifester, oui. Dégrader la voiture d'un médecin en intervention, c'est inadmissible et je ne peux pas l'accepter. Ces agissements n'ont pas leur place dans notre pays. J'adresse tout mon soutien à ce médecin.
Plusieurs manifestants ont ensuite encerclé la voiture pour permettre au médecin d'évacuer.
Beaucoup de réactions et le corps médical qui fait bloc, bien évidemment, autour de cet homme. Ainsi, la présidente du syndicat des médecins libéraux, écoutez.
Il est en colère contre ces individus violents. Dans l'incompréhension qu'on puisse faire ça, puisqu'il était sur une place livraison, il était clair qu'il était en intervention, si vous voulez. Donc c'est vraiment pénaliser l'activité d'un médecin auprès de ses patients. C'est tout un symbole, c'est tout un symbole qui est atteint, en plus du bien lui-même, si on peut dire, c'est un symbole qui est atteint.
Et même Fadel, c'est un symbole, c'est désastreux, évidemment.
Parce qu'on s'est attaqué à des biens. Normalement, on ne devrait pas s'attaquer à des biens, une voiture qui est stationnée ici, mais on s'est attaqué aussi à un médecin. Et apparemment, quand il est arrivé, il a dit tout de suite qu'il était médecin. Ça n'a pas empêché. On est face, en fait, à une ultra-gauche, à des anarchistes qui sont sans foi ni loi. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que ce n'est pas la première fois. Et ce qui m'interroge, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est plus finalement en France dans un état de droit? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut dire qu'on est impuissant face à ça? Parce que quand on interroge des policiers, qu'on leur dit « quand vous les arrêtez, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, je peux vous dire que rarement, ils sont poursuivis. Parce qu'il y a aussi une omerta autour du fait qu'ils sont de gauche. C'est-à-dire que quand c'est de gauche, on a une espèce de pression idéologique qui fait qu'on ne les poursuit pas. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons absolument, absolument penser des peines planchers pour ce genre d'individus qui mettent à mal la République et qui donnent aussi une mauvaise image. Vous savez, souvent, on aborde la question aussi des quartiers et des jeunes dans les quartiers. Mais quand vous avez des images comme ça, il n'y a pas à avoir deux poids, deux mesures.
Les peines planchers, ça avait été soulevé d'ailleurs contre les forces de l'ordre.
Exactement.
La semaine dernière, ça a été retoqué.
Ça a été rejeté.
Horizon a retiré sa proposition de loi. Jean-Claude Dacier, évidemment, là, on est dans du vandalisme pur, c'est-à-dire que il n'y a même pas à brouiller un message. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de message, en fait. Il n'y a même pas de message politique derrière.
Pour eux, c'est de l'action politique. Mais ils ont déjà fait pire. Hein. Là, ils ont brisé la voiture de ce malheureux médecin, et donc c'est un symbole qui est évidemment insupportable. Mais ça pose quand même une vraie question. C'est que tous les Français, à tort ou à raison, considèrent qu'on les connaît tous, qu'ils sont tous fichés quelque part. Et on s'étonne tous, peut-être moi le premier, de les voir revenir régulièrement en tête des manifs et foutre le, comme disait Darmanin, le bordel. Est-ce qu'on en a attrapé un, deux ou trois? Je n'en sais rien. Si c'est le cas, tant mieux, bravo. Seront-ils condamnés? J'en doute, ils ne l'ont pratiquement, je crois, enfin je vais m'avancer un peu, mais je crois jamais été sérieusement. Donc tant qu'on n'aura pas une politique pénale, suivie évidemment d'une politique pénitentiaire digne de ce nom, c'est-à-dire d'avoir des prisons où on peut mettre de temps en temps des délinquants, quand il y a de la place, ce qui n'est pas fréquent, si on met ça en place, peut-être réussira-t-on à en finir avec ce phénomène. Je suis d'accord avec vous, c'est inacceptable. Ces têtes vides font de la politique pour défendre une société dont ils n'ont même pas la première idée. Ils ne savent même pas pourquoi ils se comportent comme ils se comportent, et je ne sais même pas ce qu'ils ont dans la tête. L'ultra-gauche, oui, peut-être. Savent-ils seulement ce qu'est l'ultra-gauche? On n'en sait rien. Donc il serait temps, oui, il serait temps que le pouvoir, que l'exécutif, président de la République, premier ministre, gouvernement, prennent les affaires en main, que se décident de se débarrasser de ce bloc, black bloc, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont 500, 600, 1000 ou davantage, on n'en sait rien. Il serait temps de regarder le problème et d'essayer de le régler.
Même si
ce sera difficile, j'en conviens.
On estime que 1000 de ces individus étaient dans le cortège hier, et à l'arrivée, pour répondre à votre question, il y a eu quelques dizaines d'interpellations seulement. Judith Weintraub, ils ne défendent rien d'autre que le chaos alimenté par une certaine frange politique également, avec cette idée de chaos.
Oui, tout ce qu'on a vu faire à la France insoumise lors de cette désastreuse séquence parlementaire allait dans le sens du chaos maximal partout, comme si le chaos était un mode d'expression politique en démocratie. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est de la bêtise pure, que la violence n'est pas admise pour exprimer des idées en démocratie, si on peut appeler ça des idées. C'est déjà bien gentil. Je rappelle qu'en 2019, il y avait eu une tentative du gouvernement pour faire passer une loi qui aurait permis au préfet d'interdire de manifestation un individu s'étant rendu coupable de violence contre les biens ou contre les personnes, ou même dont le préfet pensait qu'il pourrait s'en rendre coupable. Et le Conseil constitutionnel l'a censuré. Oui. Il serait peut-être temps de remettre l'ouvrage sur le métier.
Alors, je vais vous faire réagir, bien sûr, Benoît Mournet, à cette autre séquence choquante, lorsqu'une policière, vous l'avez sans doute aperçue, elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux dès hier, une policière qui reçoit un projectile et qui s'effondre, sonnée par le choc. Regardez. On rappelle quand même que leur métier, c'est le maintien de l'ordre, la bonne tenue de la manifestation, et non pas être pris pour cible, hein, quand même.
Oui, bien sûr. Et nous dénonçons avec la plus grande fermeté ces atteintes aux personnes, cachant quand effectivement ils sont dépositaires de l'autorité publique, ou les atteintes au bien de ce médecin et pleine solidarité. Mais au fond, ce n'est pas un message politique. Un casseur, un vandale ne fait pas de la politique. C'est un casseur. Au contraire, il vient brouiller le message qu'ont exprimé des milliers de personnes hier dans les rues et que nous entendons. Donc, vous voyez, c'est comme à l'Assemblée nationale, lorsqu'il y a des perturbations du blocage, la démocratie est empêchée de s'exprimer. Et voilà le droit de manifester, le droit de grève, qui sont des droits fondamentaux, qui sont empêchés ou contrariés par des individus qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour casser.
Et puis, il y a eu beaucoup de réactions, parce que plusieurs policiers ont été blessés. Vous allez avoir le loisir de réagir, bien sûr, Jean-Claude. Leurs représentants syndicaux veulent porter l'affaire plus loin, tout en connaissant, vous allez voir, à travers les mots de ce représentant syndical, les limites, au fond, de la justice.
Nous avons déposé plainte, bien évidemment, les 7 collègues blessés. Nous irons jusqu'au bout de nos démarches. Quand on dit que la justice doit être plus sévère pour les agresseurs, pour toutes les agressions commises à l'encontre des forces de l'ordre, à un moment donné, il faut qu'on soit protégé. Notre statut de policier doit être protégé. Voilà. On est là pour défendre les valeurs de la République, pour défendre les citoyens. On n'est pas là pour se faire agresser et pour finir à l'hôpital, voire plus grave. Et là, encore une fois, c'est un drame qui a été évité de justesse grâce à la réactivité et aux compétences de mes collègues de la compagnie d'intervention qui ont agi, encore une fois, je leur tire mon chapeau et je les remercie, qui ont agi très très vite.
Voilà, et on précise, Jean-Claude, que lui s'exprime à propos de ce qui s'est passé à Marseille hier, où là aussi on s'en est pris à des policiers.
Non, mais là aussi, je crois qu'il faudrait... Il y a eu un Beauvau récemment, je ne sais pas si c'est terminé ou si c'est toujours en cours, je ne sais pas quels sont les résultats, mais il faudrait faire un cas, me semble-t-il, un cas à part des gens qui attaquent des policiers. Ça serait une loi qui pourrait faire 3 lignes, mais qui...
C'était l'amendement, des députés Horizon, proche d'Édouard Philippe.
Il a été rejeté. Mais on a le droit tous de changer d'avis. Quelqu'un, quel qu'il soit, Black Bloc ou pas, qui touche un policier, c'est, on ne pas dire n'importe quoi, c'est 2 ans de prison ferme, automatique. Le juge n'a pas son mot à dire.
Il n'y a même pas de récidive, je suis d'accord.
Voilà, sans récidive. Oui. Un gars qui attaque avec ses petits poings, avec un caillou, avec tout ce que vous voudrez, qui s'en prend à un policier, dans quelles que soient les circonstances, il a automatiquement 2 ans ou 3 ans de prison. C'est au parlementaire de le décider. Je vous assure que là, vous changeriez rapidement les choses.
Jean-Claude, pour aller dans votre sens, cette proposition en plus, c'est ça qui est quand même hallucinant. C'était, en cas de récidive, 1 an. Non, mais vous rendez compte, on s'attaque à des policiers qui nous protègent, qui risquent leur vie, et on tergiverse.
Il fallait même pas évoquer la récidive. Pays,
alors, je ne sais plus, 5 ans, peine plancher, 5 ans, sans discuter.
Alors, Benoît Mournet,
c'est un sujet.
Vous allez nous dire, le dispositif existe, il ne faut pas l'enrichir, il ne faut pas le renforcer.
Au-dessus des lois et au-dessus de nous tous, il y a ce qu'on appelle la Constitution et l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Donc même un député ne peut pas tout faire. Non. Une proposition de peine plancher en tant que telle, elle est inconstitutionnelle. Le juge peut toujours y déroger. C'est notre principe d'individualisation des peines. Mais pourquoi, revenons d'un mot, pourquoi est-ce qu'on a écarté cette proposition de loi du groupe Horizon, non pas par idéologie, contrairement à ce que vous semblez insinuer, mais
non,
juste pour un problème
règlement de compte d'efficacité.
Pas du tout, parce que c'est très sain qu'il y ait des débats en interne à la majorité. Un sujet d'efficacité, c'est juste que les peines planchers ont existé dans notre pays, dans le droit, pendant quelques années.
Elles ont été appliquées
et elles ont été peu appliquées parce que l'institution judiciaire s'en est peu saisie. Mais surtout,
oui, parce que les juges ne voulaient pas.
Du point de vue de l'efficacité. Ce qui était dans cette proposition...
Ça, c'est le discours d'Éric Dupond-Moretti.
Il dit, on a fait
les expérimentations,
non,
ça n'a pas marché.
C'était une peine d'un an dans la proposition de loi. Oui. Et aujourd'hui, le délit sur ces violences aggravées, la moyenne d'emprisonnement est de 14 mois. Donc, on est déjà plus sévère. On ne peut pas laisser dire que la justice serait laxiste.
Alors, donnez-nous des exemples.
Ce que vous indiquez, vous disiez, les prisons sont surpeuples. C'est déjà un signe même que la justice n'est pas laxiste. Vous l'accordez.
Pas forcément pour les faits pas forcément pour les faits de cette nature.
C'est surtout le signe que le président de la République n'a pas tenu ses engagements.
Monsieur le député, c'est pas vous qui m'avez dit ça la semaine dernière, mais je vais vous raconter ce que m'a dit un de vos... un collègue. Vous savez ce qu'il m'a dit la dernière fois? Il m'a dit, on n'en a pas voulu parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de place dans les prisons.
Non,
mais vous vous rendez compte, vous pouvez retrouver l'émission.
Chiffres à l'appui, les délits et les crimes sont plus punis aujourd'hui qu'il n'y était il y a même 5 ans ou il y a il y a 20 ans.
Continuons.
Donc, allez, Judith Van Trump.
De pas Judith souscrire à ce bandeau.
Mais le problème, c'est que vos peines, cher monsieur, ne sont pas appliquées. Que le magistrat décide d'une peine, j'en conviens, je n'en veux pas là au magistrat. Ils font de la gestion carcérale. La plupart du temps, on leur indique, il y a cher maître, enfin pas cher maître, je sais pas comment on s'appelle dans les milieux de la justice, il n'y a pas de place ce soir en prison, allez-y mollo, ou on n'en a que deux. On fait de la gestion carcérale avec la délinquance. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Ah non, vous n'êtes pas malade.
C'est une autre sinon. C'est juste un aveu d'échec, en somme, de ne pas prendre ce genre de décision législative.
Moi, je suis d'accord avec Naïma. Il y a un côté idéologique, quand même, qu'on a vu à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale. Parce qu'à plusieurs reprises, la France insoumise, toujours elle, a suscité des enquêtes parlementaires, des commissions d'enquête sur les violences de l'extrême droite, et à chaque fois les élus de droite disaient bon, et alors l'extrême gauche, ça serait peut-être l'occasion d'étudier aussi les violences d'extrême gauche, et ça n'a jamais fonctionné. Dans ce pays, il y a quand même une bienveillance générale vis-à-vis des violences d'extrême gauche, il y a tout à fait à deux poids, deux mesures. Mais à part ça, Jean-Claude, c'est pas soyez sympas, pensez à l'état de nos prisons et à la surpopulation, ne décidez pas de peine de prison, ce sont des circulaires, c'est une politique pénale qui a intégrer le fait que les 15 000 d'abord, puis 7 000 ensuite, place.
Oui, c'est pas juste susurré à l'oreille.
Non, c'est là, classement sans suite. Mais je voudrais juste dans les textes.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un ressenti.
C'est pas un circulaire, monsieur.
Je vous sors les textes quand vous voulez.
La circulaire, c'est pas un ressenti. Elle existe.
Les circulaires, les lois.
Absolument.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas corroboré par les chiffres de condamnation.
En même temps, les chiffres de condamnation, quand elle vous les demande, vous peinez à les fournir même.
Est-ce que vous comparez vos chiffres avec la progression des actes violents? Parce qu'une progression en valeur absolue, ça ne veut rien dire. Il faut le comparer avec le nombre d'actes commis. Or, vu le nombre d'actes commis et vu l'explosion des violences aux biens et aux personnes, non, je suis désolée, on n'incarcère pas davantage aujourd'hui qu'on le faisait il y a 5-10 ans.
Le budget de la justice a augmenté de 44%.
Monsieur, ce sont des chiffres en valeur absolue. C'est très bien.
Le budget de la justice, le Rassemblement national, vous votez contre, vous voyez ?
C'est très bien.
Vous votez contre l'augmentation du budget de la justice. La loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est 8 500 policiers et gendarmes. Dans nos campagnes, c'est 200 brigades de gendarmerie. Les magistrats, plus. Mais comment ça, ils ne sont pas encore là ? Eh bien, écoutez, allez voir. Je vous amène avec moi à Tarbes. Je vous amène avec moi sur
le
terrain.
Je connais le terrain.
Vous allez voir si sur le terrain.
Je suis en lien avec des policiers, avec des commissaires.
On n'a pas eu des renforts de policiers et gendarmes.
Désolé, tout ça est très bien. Tout ça est bel et bon. Vous avez raison. C'est la bonne direction. Ça va au rythme où ça va, mais c'est la bonne direction.
On continue.
Simplement, vous ne pouvez pas nier qu'il y a au sein du pouvoir passé, mais pas. Il n'y a pas très longtemps, des gardes des Sceaux de l'époque, Mme Belloubet, et celle qui lui a précédé. Il y a une philosophie. qui consiste à dire que la prison est criminogène, que la prison fait plus de mal que de bien, et circulaire à l'appui, en effet,
mais pourquoi ne pas la nommer ?
On conseille...
Madame Taubira.
Oui. Madame Taubira. Oui. On conseille, en effet... De regarder ce que l'on fait, de faire le moins d'emprisonnement possible, parce que c'est très mauvais, et on oblige. Donc, il faut quand même qu'on se dise les choses entre nous, que vous ayez donné davantage d'argent à monsieur le garde des Sceaux, bravo, continuez comme ça, davantage d'agents de police, ou de bravo, continuez comme ça, ça va pas suffire.
On va avancer un petit peu.
De quoi parle-t-on ?
On va revenir aux dégâts matériels qui ont été conséquents également, en plus de cette voiture de médecin, ça c'était quand même l'image la plus marquante, mais on pourrait aussi penser à cette agence immobilière prise pour cible à Paris, le résumé avec Maxime Lavandier sur place.
C'est vers les coups de 17h hier, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, avenue des Gobelins dans le 13e arrondissement de Paris, qu'une vingtaine d'individus cagoulés ont attaqué une agence immobilière. Ils étaient armés de pierres, de bombes de peinture, mais également de mobilier urbain. Ils ont cassé la vitrine de cette agence, vitrine qui fut réparée ce matin par une entreprise de verrerie. Moi, j'ai pu m'entretenir avec l'un des employés qui était sur place hier et qui a assisté à la scène. Il me dit être frustré et ne comprend pas pourquoi ces individus ont attaqué cette agence immobilière qui, selon lui, n'est pas représentative du capitalisme, régime auquel les Black Blocs s'attaquent habituellement lors de ces manifestations. Il me dit comprendre également ces manifestations, mais pas ces actions de casse qui donnent une mauvaise image aux manifestants. Et le gérant, lui, de son côté, ce matin, a porté plainte au commissariat.
Benoît Mournet, quand on entendait certains des manifestants hier qui, pour la plupart, se sont même pas rendus compte parce que le cortège était quand même conséquent et qu'ils sont peut-être passés ou avant ou après ou qu'ils ont contourné ces exactions, on leur a volé leur manifestation parce que on parlait de brouiller le message. D'une certaine manière, ils se sentent un peu dépossédés du message, réel message que eux ont voulu faire passer sur leur quotidien.
Non, je ne crois pas que la manifestation ait été volée. Il y a eu une mobilisation qui est forte. Vous savez, ce qui est en jeu dans ce texte, c'est notre sécurité sociale. Ce qu'on a fait, je pense, de plus beau depuis l'après-guerre, c'est l'idée que le bien portant est solidaire de celui qui se bat contre la maladie à l'hôpital, celui qui travaille est solidaire de celui qui n'a pas d'emploi ou de celui qui est à la retraite, celui qui n'a pas d'enfant est solidaire de celui qui a un enfant. C'est la sécurité sociale. Voyez. Et le système, il est en jeu aujourd'hui sur notre système de retraite par des répartitions parce que la démographie s'impose à tous et on a un déséquilibre entre ceux qui cotisent et ceux qui sont à la retraite. Et on veut corriger ce financement sans l'appliquer de manière uniforme à tous. Je rappelle toujours que 40% des gens continueront à partir avant 64 ans, que ce soit un titre ou un autre, les carrières longues, la pénibilité. Bon, mais néanmoins, cette réforme n'est pas populaire, c'est clair, c'est dit. Dans ces cortèges, d'accord, il n'y a pas que des gens qui ne veulent pas travailler, il y a aussi des gens qui travaillent. Et voyez bien, moi, tous les week-ends, je suis sur le terrain et je suis aussi interpellé, bousculé sur le fond. Mais si vous voulez, c'est une réforme d'effort. Et je crois que dans la politique, parfois, le courage politique, c'est de faire des réformes, même si sur le moment, elles ne sont pas populaires, parce qu'on croit que c'est l'intérêt général et que c'est l'intérêt des générations.
Mais que répondez-vous à ceux qui vous disent, ou ceux qui disent, il n'y avait pas péril en la demeure sur le plan comptable, on aurait pu attendre quelques années?
Mais ça, c'est faux. Vous voyez, alors moi, je suis peut-être un des rares qui ait lu le rapport du corps, de la première à la dernière, à la dernière page. Eh bien, un déficit de 12 milliards d'euros par an, eh bien, on fait rouler une dette très vite de 150 milliards et avec des volets
des
cachés du déficit.
Des pensions qui s'effondrent.
Sur les régimes spéciaux.
Insister sur ça.
Et sur les régimes publics qui sont dans des déséquilibres démographiques. Donc il fallait corriger le tir. Alors, la facilité de dire on fait rouler la dette, ce qu'a finalement dit de manière implicite le Rassemblement national. Et là, dans une contradiction totale,
riches,
puisqu'on explique que la dette, je rappelle, est détenue quand même par l'étranger. Voilà. Donc il y a une contradiction. Sinon, les alternatives, c'était quoi? Baisser les pensions? C'était 800 euros par an de moins. La cotisation, c'était plus 500 euros par an. Donc, ça impacte le pouvoir d'achat et ça impacte la compétitivité des entreprises dans l'économie. Donc, on a une mesure qui n'est pas populaire, mais qui nous
pour
semble
la réponse, quelqu'un la qui n'est pas d'accord avec vous et qui a aussi épluché le même rapport.
Oui, non, je suis globalement d'accord. Je trouve qu'en termes de communication, insister sur le fait que si on ne faisait rien, les pensions s'effondreraient, aurait été un message plus simple et plus lisible que de changer de raison de réformer. Je rappelle qu'au début, Emmanuel Macron disait c'est pour sauver notre système de santé, notre système scolaire. Ensuite, Elisabeth Borne a dit non, non, pas du tout, pas un sou n'ira ailleurs que dans le système des retraites. Il y a eu des contradictions. Je ne joue pas sur les 1 200 euros, etc., etc. D'une part. D'autre part, ça ne suffira pas. Donc pourquoi ne pas avoir profité de l'occasion pour introduire de la capitalisation, je vais y arriver, capitalisation, ce que font tous les pays où le système...
Et les fonctionnaires français.
Et les fonctionnaires français qui ont...
Ça s'appelle la préfond.
Non, la préfond, c'est terminé. Maintenant, c'est aligné sur la perte.
Oui, mais après, c'est quand même...
Il reste un système obligatoire.
Quelques secondes, Naïma.
Alors moi, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'était pas la bonne période du tout. Alors, c'est vrai qu'on margue... Non, mais ce n'était pas la bonne période. Pourquoi ? Un autre moment aurait été... meilleure période. Pourquoi ? Parce que on a eu le Covid, on est sorti quand même du Covid, on a eu l'inflation, on a eu cette politique hasardeuse qui nous a fait quand même des difficultés au lieu de, en lien avec l'énergie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une baisse du pouvoir d'achat des Français globalement,
non.
Et surtout des classes moyennes.
Si, non, pas
des
l'année dernière, moyennes. Non. Pas l'année
Je vous parle de maintenant, des classes mais moyennes.
Attendez la fin de l'année. L'année dernière, non.
Vous faites vos courses, Jean-Claude.
Moi, oui, je fais comme tout
courses.
Le monde. L'année dernière, dire, non, mais...
Rien que... non, mais je vous parle de maintenant. Les classes
l'année dernière, moyennes, il n'y a pas eu de baisse de pouvoir d'achat.
Allez, on va.
Non, mais je.
Rapidement,
je
parce qu'on va devoir s'interrompre, Naïma Fadel.
Et là, la classe moyenne, bon, vous pouvez regarder, hein, vous mettez de l'essence comme moi, je pense. Hein. Vous mettez un plein, aujourd'hui, vous avez 30 euros à 40 euros de.
Et justement, vous parlez du carburant.
Et vous avez, au niveau de votre panier, vous avez entre 14 et 28%
on continue d'en parler.
Avec le sucre à 37% quand même.
Je vous rassure.
Passe à 18%, je les connais par cœur. Hein,
on continue d'en parler si vous le voulez bien. Oui, non, mais là, on est en train de déborder un petit peu. Donc, je vous invite à en parler dès le retour de la pub. À tout à l'heure. Et avant de reprendre notre débat, le journal tout de suite avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Pour Elisabeth Borne, ce comportement n'a pas sa place dans l'hémicycle. La Première ministre s'est entretenue au téléphone avec Éric Dupond-Moretti au sujet des deux bras d'honneur du garde des Sceaux hier à l'Assemblée nationale, geste qui avait provoqué un tollé. Plusieurs responsables politiques ont depuis demandé la démission du ministre. Si vous avez prévu de visiter le Louvre cet après-midi, vous n'avez peut-être pas choisi le bon jour. 150 salariés grévistes manifestent actuellement à l'intérieur du musée. Ce matin, ils ont occupé la salle de la Joconde pour affirmer leur solidarité avec les luttes des femmes pour leurs droits partout dans le monde et pour dénoncer l'impact en France de la loi retraite sur la situation des femmes salariées. Même chose pour les dockers à Marseille. Une opération port mort a été lancée depuis ce matin. Les agents du port bloquent tous les accès depuis 5 heures du matin. Conséquence, aucun poids lourd n'entre ni ne sort. Les seules personnes autorisées à circuler dans cette zone sont les agents de sécurité. Vous l'avez compris, hein, mettre l'économie du pays à genoux, c'est l'objectif de la CGT pour cette grève reconductible. Mais l'impact économique touche également les grévistes. La mobilisation peut en effet être un sacrifice pour les salariés qui sont en grève, un sacrifice financier. Alors comment les manifestants s'organisent? C'est un sujet d'Alexis Vallée.
Une journée de mobilisation pour les grévistes, c'est aussi une journée de salaire en moins.
S'il faut encore poser des demi-journées, je préfère du coup sacrifier des sorties ou faire moins de choses à côté, dépenser moins d'argent et du coup garder cet argent-là que je n'ai pas utilisé pour faire grève.
Pour les salariés syndicalisés, une solution a été trouvée pour compenser cette perte d'argent.
Nous, à la CFDT, on a une caisse, ce qu'on appelle la Caisse nationale d'action sociale. C'est quelque chose qui est sur les cotisations chaque année des salariés, enfin des adhérents. Vous envoyez votre fiche de paye et on compense un petit peu pour soutenir justement pour ceux qui sont moins bien lotis.
En moyenne, avec un salaire horaire de 11,30 euros net, un employé du secteur privé perd ainsi 79,10 euros par jour, 82,60 euros pour un ouvrier et 193,20 euros pour un cadre. Une somme qui empêche certains travailleurs de participer aux manifestations. Mais ce gréviste a un conseil pour les plus réticents.
Prenez des jours de congé, prenez des RTT. Il y a plein de modes d'action qui font qu'on peut ne pas perdre d'argent tout de suite. Vaut mieux perdre, 5-6 RTT dans l'année et partir 2 ans plus tôt à la retraite. Voilà, c'est un choix.
Les syndicats souhaitent à présent mener une grève reconductible, mais pour y arriver, ils devront compter sur la volonté des manifestants.
Allez, un peu de sourire à présent avec l'ouverture des réservations à la SNCF pour cet été. Depuis ce matin, les billets de train sont en vente pour les départs prévus du 8 juillet au 3 septembre et même jusqu'au 9 décembre prochain pour les TGV Ouigo. Un mot de sport, ce soir le Paris Saint-Germain joue à Munich. Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Bayern-PSG, c'est ce soir 21h sur Canal+, avec un Kylian Mbappé titulaire cette fois qui va peut-être changer la donne. Le sujet est de Marco Maricic.
Il est très certainement la principale raison d'y croire côté parisien, mais aussi la plus grosse crainte des Munichois. Sa présence pendant 30 minutes lors du match aller était parvenue à faire trembler une équipe du Bayern, jusque-là pas inquiétée. Métamorphosée, mais pas assez pour égaliser, Paris a néanmoins retrouvé la forme depuis le retour de Kylian Mbappé, bien aidé par ses 5 buts marqués pour remporter les 3 derniers matchs disputés. L'attaquant français incarne l'atout offensif numéro 1 du club parisien.
Et puis Corinne Diacre dénonce une opération de déstabilisation. La sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football se dit pleinement déterminée à mener sa mission au Mondial 2023. En poste depuis 2017 et sous contrat jusqu'à l'été 2024, Corinne Diacre est visée par des critiques de plusieurs cadres de l'équipe, parmi lesquels la capitaine Wendy Renard et les attaquantes vedettes Marie-Antoinette Katoto et Kadi Diatou Diani. Elles ont décidé depuis de se mettre en retrait de la sélection. Voilà pour ce journal. L'actualité continue bien sûr avec Nelly Denac à présent et ses invités pour la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup, cher Michael. Voilà qui est très complet. Et on poursuit notre débat en effet avec nos invités aujourd'hui autour de ce maître mot, le maître mot de ces derniers jours. C'est le mot blocage. Ça ne vous a pas échappé. Blocage à tous les étages, d'ailleurs, vous allez le voir, y compris en matière de dialogue. Mais commençons avec les blocages pétroliers qui ont débuté avec un collectif de syndicalistes et de gilets jaunes qui a bloqué pendant plusieurs heures la nuit dernière des dépôts d'essence au nord de Bordeaux. Reportage signé Antoine Estève.
Au milieu de la nuit, des dizaines de camions-citernes bloqués. Ce groupe d'une cinquantaine de manifestants a posé des barricades aux entrées des entrepôts pétroliers de la Gironde, à Ambès. Des syndicalistes locaux, mais aussi des gilets jaunes venus prêter main forte.
On peut dire aussi des syndicalistes qui ont les gilets jaunes. En fait, on est un collectif, quoi. Donc on est unis et on fonctionne comme ça, quoi. Comme Macron reste sourd, nous on réagit, quoi.
Ce chauffeur décide de repartir sans ses 40 000 litres d'essence qui auraient alimenté des stations de la grande distribution. L'approvisionnement est bloqué pour une bonne partie de la journée.
C'est un collectif qui réunit des gilets jaunes et des militants syndicaux et on travaille ensemble depuis 2019. Voilà. C'est un peu l'enjeu, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est là, développer la contestation, renforcer le mouvement, faire que la grève reconductible puisse aussi se développer. Voilà.
Au total, 150 camions-citernes auront rebroussé chemin. Le blocage a été levé dans la matinée. Et d'après les porte-parole du mouvement, ces actions ponctuelles contre la réforme des retraites vont se multiplier dans les prochains jours. Quelques stations-service de la région commencent à connaître des pénuries sur certains produits, comme l'essence sans plomb.
Jean-Claude Dacier, elle est là, la force de frappe syndicale? C'est-à-dire que c'est la seule manière, à leurs yeux, et dans l'espoir de faire tomber les réformes, de faire tourner les choses ou de ne pas les faire tourner, précisément?
Il y a aussi le nombre qui a été incontestable hier, mais c'est vrai que la CGT a bien travaillé, je ne dirais pas depuis 1945, parce que ça nous remonterait trop loin, mais depuis 1980. Il y a depuis une tradition très forte à la SNCF, à EDF, à la RATP et dans les raffineries. Quand vous avez ça, et que vous n'avez pas peur de bloquer les dépôts en disant « aucun camion n'entre et ne sort avec de l'essence dedans », c'est sûr que vous avez davantage de poids que... On voyait des assemblées générales autrefois, ils étaient 15 ou 20 pour décider qu'on continuait le blocage ou non. Maintenant, est-ce que les Français vont considérer encore longtemps que c'est parfaitement normal? Je vais vous dire, moi je ne pense pas que les Français ou que la France acceptera une nouvelle fois, moins d'un an après le premier épisode, où on a manqué cette fois vraiment d'essence, où il y a eu pénurie, je pense que les Français ne vont pas l'accepter cette fois-ci. On a le droit de défendre ses conditions de travail. On a le droit de défendre son niveau de salaire. On peut même, et on ne s'en prive pas, de défendre l'âge de départ à la retraite. Néanmoins, je pense qu'il faut utiliser, comment dire, des moyens qui soient démocratiques. Et quand j'entends, pas M. Martinez, et encore moins M. Berger, mais quand j'entends des responsables de Fédé, quand même, personnages très importants de la CGT, expliquer qu'on va mettre l'économie française à genoux ou qu'on va mettre la France à l'arrêt, quelque part, je me dis que ce pays a une drôle de maladie et qu'il serait temps de s'en préoccuper.
Alors, il y a l'action des raffineries, il y a aussi les énergéticiens, il ne faut pas les oublier, hein, dans le secteur de chez EDF, dans le secteur du gaz également, qui, eux, promettent aussi des blocages qui peuvent avoir des conséquences concrètes, réelles sur notre quotidien quand même.
Promettent des blocages et on fait des coupures. Il y a déjà eu des milliers et des milliers de foyers qui ont subi des coupures d'électricité sauvages, revendiquées par des agents d'Enedis. Enedis qui est la partie ex-EDF chargée d'assurer la distribution de l'électricité dans ce pays, qui a des missions de service public. Avec des dégâts extrêmement importants. Quand on parlait de l'inflation tout à l'heure, quand vous perdez un congélateur plein parce qu'on vous a coupé l'électricité, ça vous coûte extrêmement cher. Enedis promet de porter plainte contre ces agissements. J'espère qu'ils vont le faire. De la même façon, j'espère que le gouvernement qui a dit qu'il s'opposerait au blocage, qu'il les lèverait, le fera et le fera plus vite que la dernière fois, quand on a attendu que la panne des dépôts d'essence, enfin le blocage des dépôts d'essence, ait paralysé une partie de la France pour intervenir.
Benoît Mournet, on est quand même sur une ligne de crête, là, côté syndical, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut très vite passer de la compréhension, voire de la solidarité, parce que chacun se sent concerné par cette réforme, à une forme de lassitude, voire de colère inversée sur ces entraves du quotidien.
Oui, je pense sincèrement que le blocage n'aide pas la cause. Ce qui est sûr, c'est que quand on bloque qui en fait ? On bloque les gens qui travaillent, les employés, les salariés, les ouvriers, ceux qui doivent et qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer spécialement. Mais là où je vous rejoins tout à l'heure, vous disiez le mouvement agrège d'autres mécontentements. Moi, je le vois chez moi dans les Hautes-Pyrénées. C'est au-delà de la réforme des retraites. Ce qui s'exprime, c'est des sujets sur le pouvoir d'achat et plus globalement un rapport au travail qui a évolué. Et ce que nous devons faire dans le cadre de la prochaine loi travail qui arrive à l'ordre du jour à la suite, c'est réfléchir à comment travailler mieux. Parce que ce qui a été exprimé dans ce mouvement, c'est aussi une demande de plus grande liberté. Finalement, j'ai envie de partir quand je veux. J'ai commencé tôt, je veux partir plus tôt. Donc quelque part, là, on vient percuter le système de répartition, qui est un système de solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite. Mais il faut entendre ça. Et puis le sujet de pouvoir d'achat, je suis désolé, cette réforme, on l'a fait pour le pouvoir d'achat. On l'a fait pour le pouvoir d'achat des retraités actuels et des retraités futurs.
Bon, enfin, sur les 1200 euros, ça a beaucoup cafouillé quand même.
Comment un progrès peut être traduit parce qu'on juge qu'il ne va pas assez loin comme quelque chose de négatif? Si on ne fait rien, vous le disiez. Non, mais c'est assez complexe là-dessus. 1 800 000 personnes retraitées actuelles bénéficieront d'une augmentation de pension. C'est la réalité des chiffres. La liquidation de la retraite future, ce sera 85% du SMIC net. Ça, c'est dans la loi. Voyez. Donc ça concerne un flux de 200 000 travailleurs par an, plus effectivement les retraités actuels. Donc c'est une réforme pour le pouvoir d'achat. En fait, on défend le pouvoir d'achat dans cette réforme.
En tout cas, c'est pas perçu comme tel, hein. Ça, je vous le dis. Sinon, il n'y aurait pas 70% des Français
qui communications parfois
s'opposent à la réforme,
parfois rapides.
Et puis il y a aussi
quelques leçons politiques en effet attirées de ce conflit.
Il y a aussi quand même ce silence. Vous aurez l'occasion de rajouter à ce propos, mais j'aimerais quand même qu'on en vienne aussi, Naïma M. Fadel, à ce silence présidentiel. Je parlais de blocage. Là aussi, c'est un blocage en somme. Écoutez ce qu'en dit, juste avant de réagir, la secrétaire confédérale FO quand elle en appelle directement au chef de l'État.
Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale adressera un courrier lui demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme.
Je doute un peu que...
Non, mais vous savez...
qu'il trouve une oreille favorable.
Moi-même, mardi, j'étais sur votre antenne et j'ai dit, quand on discutait avec l'ensemble des invités, et je me suis dit que le président de la République pouvait prendre la parole dès mardi soir et dire « je vous ai compris ». Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas devant, on sait qu'il veut cette réforme, mais ce n'est pas lui qui est devant, c'est surtout le ministre du SOP et Elisabeth Borne. Il a bien vu qu'il y a eu des couacs au niveau de la communication. Il a vu qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le concéder. Il y a eu des choses qui ont été concédées au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le Sénat aussi. On se demande ce qu'il va en rester, sincèrement, de cette réforme. Et je pense qu'il y aurait eu du panache à venir et à parler aux Français. Parce qu'effectivement, ce n'est pas rien le fait que cette unité, quand même ça fait depuis longtemps, syndicale, a eu lieu. C'est important quand même ce qui s'est passé. Et même dans le discours. Je termine, juste ce que je veux vous dire. Oui. Et vous avez vu le discours de, que ce soit de Martinez, enfin, déjà de Berger, où il disait on ne va pas bloquer parce qu'ils n'ont pas intérêt à se mettre à dos les Français qui soutiennent massivement ces manifestations. Et même Martinez, à mon avis, il a envie de bloquer. On sent bien qu'ils n'ont pas envie. Donc aujourd'hui, on est quand même à un positionnement où il peut être intéressant pour le président de la République de prendre la parole.
Et pardon, Non, mais pardon, pas tous en même temps.
Je vous ai compris, ça veut dire je retire ma réforme.
Non,
je retire ma réforme devant les 10% de Français.
Je vais vous dire des choses.
Moi, non, mais rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il faut partager la parole aussi.
On a aussi une problématique dans notre pays, c'est qu'il faut mettre à plat tout. Effectivement, la valeur du travail, il faut la
mettre en compte. Merci, Naïma. Benoît,
l'État providence.
Benoît Mournet. On a compris. Franchement, est-ce que ce serait salvateur à un moment je sais que vous allez nous débiter votre discours, salvateur qui parle. Après tout, cette réforme, c'est lui qui l'a voulu.
Je suis dans un parler vrai. Le président de la République s'est engagé fortement. Le gouvernement a déposé un projet de loi après avoir discuté pendant des semaines avec les partenaires sociaux. C'est le temps du Parlement. Les mêmes qui veulent que la démocratie soit revivifiée. Le temps du Parlement, malheureusement bloqué, obstrué à l'Assemblée nationale. J'espère au Sénat...
Non, là c'est le temps de la crise tout court, en fait.
Non, mais est-ce qu'il n'aurait pas
été... La semaine prochaine, c'est le temps
du vote. Politiquement utile que... Vous avez raison, aujourd'hui, c'est le temps du Parlement. Mais qu'au début du processus, le président de la République, à 20h, vienne expliquer ce qu'il y a dans son projet de loi.
Il ne l'a pas fait, c'est faux.
Je vais vous dire, d'abord, il ne l'a pas fait et il se trompe de République. Je suis navré, ça paraît très immodeste de lui dire une chose pareille, mais il se trompe de République. Le Premier ministre qui fait tout et le Président qui se planque et qui intervient juste à la fin pour corriger tel ou tel point, ça n'a jamais existé sous la Ve République, sauf entre De Gaulle et Michel Debré. C'était il y a très longtemps. Maintenant, le pouvoir, c'est le Président de la République. D'autant, et je me permets d'insister, d'autant que la Première ministre, on l'a pas beaucoup entendue, c'est un discours techno qui a ses mérites, sans aucun doute, mais qui, en l'occurrence là, a manqué de la dimension politique. Il n'y en a qu'un qui a tenu un discours politique intéressant et utile. C'était Yvan Attal. Je me suis trompé de peu. Et puis, il y a eu Dussopt, auquel je ne jetterai pas la pierre, parce qu'il s'est battu, comme il était très difficile. Il a fait ce qu'il a pu, le malheureux. Mais le président, en effet, a beaucoup manqué, au moins au début.
Judith Weintraub, sur la parole présidentielle, est-ce qu'elle est attendue? Est-ce que la parole, plutôt que le silence, est d'or aujourd'hui?
Je trouve qu'effectivement, Emmanuel Macron aurait dû, dès le début, assumer cette réforme et l'assumer pour une raison dont il ne varierait pas au fur et à mesure des semaines, chose qu'il a faite. Donc un discours carré sur ce que ça nous coûterait, ce que ça coûterait aux retraités de laisser le système filer à volo comme il le fait actuellement. On n'a pas eu ce discours-là. Et maintenant, le fait qu'il n'ait absolument pas qu'il ne soit pas intervenu dans le débat, sinon depuis l'étranger, au gré de ses déplacements, pour dire qu'il ne céderait pas ou pour commenter telle ou telle mobilisation, conforte les opposants à la réforme dans l'idée qu'ils se protègent dans la perspective d'un échec.
Allez, on reprendra ce débat, bien sûr, qui n'est pas fini, puisque ça se poursuit au Sénat. Hein, on le rappelle, jusqu'au 16 mars, on va examiner ce texte. J'aimerais qu'on en vienne à cette affaire de vengeance qu'on a beaucoup suivie à Roanne. Bonjour Noémie Schulz. Quatre prévenus étaient jugés pour avoir passé à tabac un mineur soupçonné d'avoir agressé sexuellement la fille d'un voisin qui est âgé de 6 ans. Quelles ont été les peines prononcées à l'encontre des différents protagonistes ?
Le jugement a été rendu hier au tribunal de Roanne. Le père de famille a été condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis. C'est une peine inférieure à ce qui avait été requis par le procureur de la République au mois de janvier. Il avait demandé à l'encontre de cet homme de 28 ans, un homme déjà condamné pour des vols avec violence, un refus d'obtempérer et détention de stupéfiants, une peine de prison de 18 mois, dont 6 à 9 mois avec sursis probatoire. Le procureur avait parlé d'un lynchage inacceptable. Quand bien même le jeune serait coupable, je vous le dis, vous n'aviez pas le droit de commettre sur lui des faits de violence. Seule l'autorité judiciaire peut dire si quelqu'un est coupable et le condamner. Le tribunal, donc, a condamné cet homme, mais à une peine moins lourde, 8 mois de prison avec sursis. Un de ses amis qui avait participé aussi à ce règlement de compte a été condamné à une peine plus lourde, de 6 mois ferme. Et les deux autres prévenus ont été relaxés au bénéfice du doute.
Alors, quelle a été la motivation du tribunal ?
Le tribunal a pris le soin d'expliquer ses peines. Ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, au moment du délibéré, le président ou la présidente se contente de donner les peines. Là, la présidente a pris soin d'expliquer qu'elle avait tenu compte du contexte pour décider de cette peine relativement clémente au regard des réquisitions. Une peine de principe qui devait rappeler que même si on peut comprendre l'état dans lequel était ce père de famille, eh bien les faits étaient constitutif d'une infraction. Le père s'était expliqué lors de l'audience et c'est vrai qu'il avait reconnu les faits et qu'il avait dit dans le contexte, je ne me maîtrisais pas moi-même. Il avait expliqué que ça faisait 24 heures qu'il n'avait pas dormi, qu'il s'inquiétait pour sa fille. Je ne le referais pas, ça n'était pas acceptable. Et d'ailleurs, on voit que la mansuétude n'a pas été la même à l'encontre de son ami, d'un de ses amis, qui lui a été condamné à 6 mois de prison ferme. Pourquoi ? D'abord parce qu'il c'est quelqu'un qui est en état de récidive légale, qui avait été condamné pour des faits de violence. Et ensuite parce que le tribunal aussi a estimé que concernant cet autre homme, le volet émotionnel, le côté la colère, le fait d'avoir agi sous le coup de l'émotion ne pouvait pas être retenu, que lui aurait dû au contraire essayer de maîtriser son ami plutôt que de participer lui aussi aux violences.
Alors pourquoi ? La question que tout le monde se pose quand même, c'est pourquoi l'homme dont il s'agit, le suspect qui a attaqué, qui aurait agressé cette fillette, n'a pas encore été jugé, lui ?
Eh bien, parce que cette enquête-là prend plus de temps. Il y avait eu dans cette affaire, en fait, deux affaires. Il y avait les affaires de violence de ces quatre hommes qui avaient donc interpellé eux-mêmes ce jeune 24 heures après les faits et qu'il avait molesté avant d'appeler la police. Et puis, il y avait l'enquête sur que s'est-il passé 24 heures plus tôt dans cette maison, dans la chambre de cette fillette de 6 ans. La première enquête sur les faits de violence, elle a été relativement rapide, ils auraient presque pu être jugés immédiatement, en comparution immédiate, mais le tribunal avait notamment estimé qu'il fallait se laisser le procureur, qu'il fallait se laisser le temps et ne pas juger sous le coup de l'émotion, donc immédiatement. L'autre enquête, elle demande, d'abord il y a une information judiciaire qui a été ouverte, un juge d'instruction qui a été nommé, qui dirige les investigations, et il y a toute une série d'éléments. Le mineur a été entendu en plusieurs reprises, il y a eu des expertises psychologiques, psychiatriques, notamment sur la fillette, des prélèvements biologiques, on va regarder si on retrouve de l'ADN sur le corps ou sur les sous-vêtements de la fillette pour voir si le jeune a effectivement la touché ou a tenté de le faire. La juge d'instruction aussi, elle va se pencher sur le parcours de ce jeune mineur qui se présente comme guinéen. Est-ce qu'il est bien arrivé de Guinée ? À quel moment ? Et tout ça prend du temps, mais d'après mes informations, l'enquête est sur le point d'être bouclée et on pourrait imaginer un procès soit avant l'été, soit à la rentrée.
En un mot, quelle est la suite à toute cette affaire ? Par exemple, pour les condamnations prononcées hier.
Alors, pour les condamnations, c'est terminé. On imagine qu'il n'y aura pas d'appel puisque et le procureur de la République et l'avocat du père se sont montré satisfait à l'issue de l'audience.
Et pour l'autre volet ?
Et pour l'autre volet, on attend donc effectivement de voir si la juge d'instruction va décider de renvoyer ce mineur. Mais c'est possible, puisqu'il y a des indices, nous dit-on, graves et concordants qui laissent penser qu'effectivement il y a des charges suffisantes pour le juger. Et à ce moment-là, il sera jugé devant un tribunal pour enfants, puisqu'il est mineur.
Petite réaction des uns des autres. Judith, tiens, pour commencer. Sur la peine.
En l'occurrence, vu les éléments dont on dispose et que vous nous racontez, ça me paraît tout à fait exemplaire. Je parle du comportement de la justice. Dans un cas, effectivement, les faits sont avérés, même reconnus par ceux qui les ont commis. Les condamnations me semblent tout à fait adaptées. Et d'ailleurs, vous nous dites qu'elles sont admises par le père de la petite fille. Quant à l'autre enquête, qu'elles prennent du temps, ça me paraît normal aussi.
Rien de choquant dans tout ça. Donc la justice, là, suit bien son cours, Benoît Mornay.
Vous voyez, la justice, c'est ce qui confisque le droit à la vengeance. C'est ce qui fait la différence entre dans un état de droit ou pas. C'est pour ça qu'il faut le chérir et le préserver et jamais nous laisser aller à l'émotion. Bien sûr, quand on est victime, quand on est père, on imagine bien volontiers l'émotion, le désir de vengeance. Elle doit se traduire dans la justice. Et c'est pour ça que moi, j'ai qu'une chose à dire là-dessus. Qui vote le budget de la justice dans ce pays ? Plus 44%. 1500 magistrats,
ça,
1500
vous l'avez déjà dit.
Désolé de le dire, c'est la majorité. Voilà.
Je ne sais pas si ça s'applique vraiment à ce cas.
Parce que c'est un fourre-tout aussi. Mais si, parce que vous voyez.
Non, mais là, ce qui se pose, c'est la question de se faire justice soi-même. Et ça, c'est inacceptable. Ben
voilà. Exactement.
C'est ça le problème. C'est une grave que certains en arrivent là.
C'est la loi du talion qui a été jugée, en fait. Hein.
Non, mais la justice n'aime pas que l'on juge à sa place. Et raison.
Bon, j'ai l'impression qu'il y a consensus quand même sur le plateau.
Simplement,
sur
il ne faut pas non plus, et c'est peut-être le cas dans ce pays, que l'on mette en doute ou qu'on critique toutes fréquemment et assez souvent les décisions de justice pour des tas de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir maintenant. Mais néanmoins, je suis de votre avis, et de l'avis de tous mes camarades ici présents, le processus qui a été engagé me paraît fondé et aboutit à des conclusions qui ne le sont pas moins.
Merci beaucoup, Noémie, de nous avoir rappelé tout ça et de nous avoir résumé cette affaire, effectivement, à plusieurs volets. La justice perfectible, et puis un autre combat qui est perfectible, c'est celui de la cause des femmes. C'est bien sûr le 8 mars aujourd'hui, on ne l'oublie pas. On va largement en parler dans la dernière partie de notre débat. Une petite pause et on se retrouve à tout à l'heure. Avant de parler de la journée de la femme, je vous propose de retrouver Somaya Labidi pour le rappel des principaux titres de l'actualité.
Pas de place pour les bras d'honneur dans l'hémicycle. Elisabeth Borne a recadré son ministre de la Justice. Hier, Éric Dupond-Moretti avait provoqué un tollé en adressant deux fois un bras d'honneur au président du groupe LR, Olivier Marleix. Suite à ces incidents, plusieurs responsables politiques demandaient la démission du garde des Sceaux. Le groupe Wagner revendique la prise de la partie orientale de Bakhmout. Au cœur des combats, cette ville de l'Est de l'Ukraine pourrait tomber entre les mains russes dans les prochains jours, selon le secrétaire général de l'OTAN. La chute de cette ville laisserait la voie libre aux Russes dans l'Est, selon Volodymyr Zelensky, qui entend renforcer les unités déployées pour tenir la ville. Et puis football, le PSG joue son avenir européen ce soir à Munich. Après leur défaite 1-0 à l'aller au Parc des Princes, les Parisiens doivent s'imposer en Allemagne. Et pour se qualifier en quart de finale, le PSG devra faire sans Neymar, mais avec le duo Messi-Mbappé, une rencontre que vous pourrez suivre dès 21h sur les antennes de Canal+.
Merci beaucoup pour toutes ces infos, Somaya Labidi. En cette journée internationale des droits des femmes, vous vous en doutez, une multitude de rassemblements sont prévus un peu partout dans le monde. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure au rassemblement qui a lieu à Paris. Et puis, on va s'intéresser évidemment à ce qui nous concerne tous et qui est de nature à se faire du souci, puisque le ministère de l'Intérieur a recensé 207 743 victimes de violences conjugales pour la seule année 2021. C'est effrayant, évidemment. Et c'est une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Et puis 122 parmi ces femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Rencontre d'ailleurs avec une de ces femmes qui a réchappé à la mort, mais qui a vécu ce calvaire. Et aujourd'hui, elle veut participer à la lutte en témoignant. Le reportage, la rencontre, est signé Mickaël Chailloux.
Elle était enseignante au lycée, le père de son fils, ingénieur, un milieu social favorisé qui, pendant 11 ans, n'a pas protégé cette femme des coups donnés par son conjoint. Tout a commencé 2 semaines après leur rencontre.
J'ai envie de parler un peu familièrement, mais un coup de boule, en fait, il s'est retourné, on était en extérieur. J'ai dû dire quelque chose qui lui a pas plu. Il m'a donné un coup au front. Et puis, en fait, les coups se sont répétés. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, et je les ai acceptés, je les ai subis et acceptés dans notre vie au quotidien.
Elle cache les traces sur son corps pour aller travailler, ne laisse rien paraître à l'extérieur, une emprise dont elle a sa propre définition.
C'est comme un labyrinthe, et même quand on a un soupçon de volonté, en tout cas d'un soupçon de prise de conscience que c'est pas normal ce que l'on vit, et ben on a du mal à trouver une issue de secours. Moi, ce que je disais souvent, je me sentais enchaînée.
Pour protéger son fils, elle annonce sa volonté de partir en 2019. Il ne supportera pas et commettra un geste fatal. Pour se reconstruire, elle a ouvert une petite brocante et a écrit un premier livre qui raconte son histoire à destination de toutes les femmes battues.
Mon premier message que je peux dire à des femmes qui ont subi comme moi ou qui subissent comme moi des violences conjugales, c'est parler. Parler, pour moi, c'est le début de la libération.
Un second livre sortira dans les prochains jours, un recueil de témoignages de citoyens engagés dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
C'est à pleurer, hein, évidemment. Oui. Naïma Mfadel, au fond, ce qu'elle décrit bien, cette femme, c'est aussi l'emprise mentale, l'emprise psychologique qui s'établit au fil des années, puisqu'elle, elle l'a vécu pendant 11 ans avant de pouvoir partir. Ça veut dire aussi que il y avait sans doute un sentiment de forte culpabilité chez cette femme, peut-être peu de soutien extérieur. Fort heureusement, l'emprise psychologique que j'évoque, elle est de plus en plus prise en compte par les juges, y compris les juges aux affaires familiales, lorsqu'il faut statuer aussi sur la garde des enfants. Et c'est heureux, mais ça ne suffit pas.
Le problème, c'est que ces femmes-là, quand elles sont dans des situations comme ça, c'est d'avoir, en fait, à qui parler et que d'avoir aussi une écoute attentive et d'oser aussi dénoncer. Parce que le problème, c'est que parfois, ça peut être, elle parlait de prison, et effectivement, ça peut être une prison mentale, mais au-delà de ça, en se disant « c'est pas grave, ça passera, il m'aime, je l'aime », etc. C'est-à-dire qu'à un moment, de trouver les possibilités de pouvoir avoir des espaces où elles peuvent parler. Et moi, je sais que sur les différentes villes dans lesquelles j'ai travaillé, il y a les centres sociaux qui ont pris conscience qu'il fallait des espaces où ces femmes-là sont accueillies. Mais vous savez, souvent, ces espaces sont aussi cloisonnés dans des endroits où les femmes ne vont pas oser parce qu'elles ont peur aussi du regard social. C'est pour ça que l'idée aussi de mettre des espaces, et je sais que ça commence à se faire, dans les centres-villes, pour d'une manière anonyme pouvoir ouvrir la porte et aller dans ces endroits et pouvoir dire tout ce que ces femmes-là subissent. Je voudrais aussi... je pense que l'Association des maires de France, Nelly, a un rôle à jouer. Parce qu'il faut aussi que les collectivités, les maires, prennent conscience que c'est au niveau local, avec les policiers municipaux, qu'il faut aussi enclencher ces espaces d'écoute et ces espaces aussi d'accompagnement pour que ces femmes-là puissent porter plainte et sortir aussi de cette emprise physiquement, c'est-à-dire pouvoir les sauver du domicile et pourquoi pas après faire partir l'homme, parce que ce n'est pas à la femme non plus de partir.
Judith Vintraub, ça commence aussi par une meilleure éducation des enfants. Et
des hommes,
fils,
des garçons
en particulier.
J'allais en venir là, mais votre dernière phrase va dans mon sens. J'allais dire, et les hommes. L'éducation, elle doit s'adresser en priorité aux hommes qui commettent des violences contre leur conjointe, leurs épouses ou leur ex. À partir du moment où la femme victime porte plainte, on voit assez bien ce qu'il faut améliorer. Il faut améliorer les moyens matériels, évidemment les dispositifs d'alerte, l'écoute dans les commissariats, etc., etc. Mais en France, on a pendant beaucoup trop longtemps eu comme tradition de ne s'occuper que des femmes. C'est elles qui devaient quitter le domicile dans la nuit, les enfants sous le bras, en emportant ce qu'elles pouvaient, pour vivre dans des foyers où forcément c'était du camping et c'était abominable. Et ce n'est que très récemment, et il faut en rendre grâce à Marlène Schiappa, qui elle-même a avoué avoir changé de philosophie sur le sujet, parce qu'au départ, elle disait mettre de l'argent public ou de l'argent de dons pour héberger des hommes, ça me gêne philosophiquement. C'était le terme qu'elle avait employé. Puis elle a compris qu'en fait, c'est en extirpant l'homme violent du milieu où il a pu être violent sans que ça lui nuise plus que ça socialement ou professionnellement, hein,
puisque était pénalisé.
Les gens ne dénoncent pas qu'on arrivait à changer la situation. Donc vraiment centrer beaucoup plus d'efforts sur les hommes. Alors évidemment, ce que je dis déplaît aux associations néo-féministes qui veulent les subventions et qui veulent les moyens, mais pour être efficace, il faut vraiment travailler sur les hommes.
Benoît Mournet, la représentation nationale est au premier plan sur ces questions. Que peut-elle faire encore aujourd'hui?
En tout cas, ce sujet est constitutif, nous autres, de notre identité politique. C'est la grande cause de ce quinquennat. C'était la grande cause du quinquennat précédent. Aujourd'hui, le 8 mars, et il faudra encore cette journée, aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour défendre le droit des femmes. Les chiffres que vous avez rappelés sont insupportables, profondément révoltants. D'ailleurs, quand on interroge les gendarmes et les policiers dans nos circonscriptions, ils nous décrivent effectivement des faits d'atteinte aux personnes, beaucoup plus dans les violences intrafamiliales et violences conjugales. Il y a un effet signalement, donc la parole se libère. Mais sur ce sujet, nous avons fait un énorme bond en avant ces dernières années. Et évidemment, le combat est loin encore d'être achevé. Mais peut-être faut-il rappeler déjà le 39-19, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour écouter la parole. Ensuite, la formation, vous l'avez dit, la formation au plus jeune âge, mais aussi ceux qui sont à même de recueillir la parole. Tous les policiers, tous les gendarmes dans les écoles de police et gendarmerie sont formés, 100%. Il y a des formations spécifiques qui ont été données aussi aux policiers dans les gendarmeries. La justice, tout à l'heure, que vous qualifiez de laxiste, c'est x2 le nombre d'ordonnances de protection sur ces sujets. Les bracelets anti-rapprochement, l'hébergement, néanmoins, qui reste une solution.
C'est le Grenelle.
Donc tout ça a été quand même mis en œuvre, produisent des effets. Mais moi, je vais vite faire un parallèle avec le sujet que nous évoquions la semaine dernière sur le harcèlement scolaire. Comparaison n'est pas raison. Mais il y a, au fond, un peu le même mécanisme. Et il faut sortir du huis clos entre bourreaux-victimes. Et c'est l'affaire de tous. C'est ça que j'ai envie de dire. Le devoir de vigilance, il est pour...
Absolument, parce que même avec tous les outils à leur disposition, Jean-Claude Dacier, ces femmes, elles n'ont pas toujours le courage de le faire. Donc il faut qu'elles soient accompagnées.
C'est pas seulement une question de courage. C'est
aussi l'ami, la famille, le cousin.
Ça peut être une question d'éducation. Vous avez y compris des femmes battues qui sont persuadées que l'amour, c'est ça.
Oui.
Ou pas grave, c'est ton mari. Ça chez leurs parents ou...
Jean-Claude, un dernier mot.
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les déclarations de mes camarades, ainsi que les vôtres. J'ai hélas le sentiment que ça ne baisse pas beaucoup et que le harcèlement continue de produire des effets désastreux. Je pense simplement, quand il y a des enfants au théâtre, que l'homme et la femme ou que l'homme offre à ses enfants me rend malade. J'ai regardé les peines. J'ai jamais dit que la justice était laxiste. J'ai dit non, mais vous m'avez mal écouté. J'ai dit que parfois elle n'a pas les moyens de... pour les raisons de la politique pénitentiaire qui n'a pas suivi. On retombe un peu là-dessus. J'imagine, je me trompe sûrement, mais j'imagine que si l'homme qui bat sa femme, j'ose à peine dire qu'il la tue, il y a eu combien ? 120 ?
122.
122 l'année dernière.
Oui,
c'est-à-dire que ça baisse peu, ou très lentement.
Enfin, il y a 2 ans maintenant, presque.
Si l'auteur de ces faits, qui sont indignes d'un pays comme le nôtre, savait que la sanction est... imparable, immédiate et très lourde, je me trompe sûrement, mais je veux croire que sur certains esprits, pas sur tous, j'en conviens, sur certains esprits, ça ferait réfléchir quand même. Mais il faut commencer à la gifle, regardez l'affaire Quatennens, ce que ça a donné, c'est pas encore tout à fait réglé, tout à fait terminé. Il y a même eu hier un projet de loi qui a été d'ailleurs rejeté.
On va y revenir,
rejeté.
La séquence d'Aurore Berger.
Je termine là. Donc le job n'est pas le job, le métier... est à maintenir sur l'atelier. On est loin d'avoir réglé tous les problèmes. Merci. Encore une fois, les chiffres font peur. Mais encore une fois, moi, je crois, qu'est-ce que vous voulez, je crois à la sanction. Il y a l'utilité et à l'efficacité de la sanction. On n'est pas obligé de partager mon point de vue.
Ce sera la fin de cette première partie, mais on y revient juste après une petite pause. On va revenir à toutes ces causes et on ira dans le cortège parisien également. À tout de suite.
Parcours.
Nous entamons la toute dernière partie de notre débat 90 minutes info et nous allons parler évidemment de cette manifestation à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui a lieu à Paris, place de la République jusqu'à la place de la Nation. Évidemment, nous avons une équipe dans ce cortège. Augustin Donadieu, bonjour, vous êtes accompagné de Jules Bedeau aujourd'hui. Beaucoup de monde, j'imagine, pour manifester le mécontentement, les espoirs aussi pour l'avenir, pour nos filles, pour les futures générations. Et je crois que vous êtes avec une participante à ce cortège, Marie qui est musicienne, il me semble.
Oui, effectivement, Marie qui participe à cette manifestation à l'appel de 50 collectifs féministes et de syndicats. Une grève féministe, c'est le mot d'ordre du jour. Bonjour Marie, merci d'être avec nous sur CNews. Donc vous êtes musicienne, vous avez 51 ans. Pourquoi vous êtes là concrètement ?
C'est un jour très important pour nous. Évidemment, c'est le jour international de la lutte pour le droit des femmes et ça c'est... la base, et ensuite c'est aussi la continuité de la manifestation, la mobilisation d'hier pour le retrait de la réforme des retraites.
Donc en fait c'est une double revendication, il y a à la fois des slogans anti-réforme de retraite et des slogans féministes.
Absolument, les femmes sont souvent les lésées au point de vue des traitements des salaires, on est quand même payé beaucoup moins que les hommes, et sur les retraites on va être aussi pénalisé, donc c'est pour nous important de se mobiliser aussi aujourd'hui sur ce sujet. Et aussi sur les droits des femmes. Il ne faut pas oublier nos sœurs ukrainiennes, nos sœurs à l'étranger, nos sœurs brésiliennes en Argentine qui subissent des violences et des crimes sexistes assez abominables. Donc il faut se soutenir et il faut être ensemble pour pouvoir lutter contre ces horreurs.
Que cette journée internationale du droit des femmes soit une vitrine en quelque sorte de la cause féministe. Concernant la réforme des retraites, en quoi elle ne va pas pour vous les femmes ?
Eh bien, comme je vous le disais, on va être lésés au niveau de la cotisation, c'est-à-dire qu'on touchera beaucoup moins que les hommes et on va devoir cotiser plus longtemps. Donc c'est juste difficile et inadmissible à admettre, d'autant que souvent les métiers des femmes sont les plus pénibles et souvent les moins valorisés.
Est-ce que vous êtes là satisfaite de cette mobilisation d'ampleur quand même avec beaucoup de jeunesse mobilisée aujourd'hui?
Oui, c'est ce que je me faisais comme réflexion. Je trouvais que la jeunesse s'est beaucoup mobilisée, les femmes, les hommes. On a des trans, tout le monde est super mobilisé, des jeunes gens, des étudiants, des très jeunes travailleurs. Donc ça, c'est très positif, ça laisse beaucoup d'espoir.
Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous sur CNews. Justement, Marie parlait de cet écart salarial entre les hommes et les femmes. Et depuis 15h40 aujourd'hui, un petit peu partout en France, dans plusieurs secteurs, des débrayages ont été organisés justement en réponse à cet écart salarial, puisqu'à partir de 15h40, les femmes ne sont plus payées théoriquement selon cet écart entre les femmes et les hommes.
Ça fait donc 1h10 précisément. Merci beaucoup mon cher Augustin. Merci à Jules Bedeau qui vous accompagne. Jean-Claude, pourquoi bougonnez-vous pendant l'interview cette pauvre femme?
Je n'ai pas bougonné, je dis simplement.
Vous n'étiez pas d'accord.
C'est-à-dire que je parle d'un point de vue qui est un peu provocant peut-être, mais qui est que culturellement, ça ne veut pas dire que tout soit réglé. Culturellement, les femmes ont gagné. Et il faut s'en féliciter.
Ah bon ?
Je crois que culturellement, les femmes ont gagné. Les hommes, pas tous évidemment, disons ceux qui dirigent, les élites, pour une fois, essayons de leur en dire, un peu de bien, sont convaincus que les femmes doivent avoir leur place, et c'est le cas petit à petit. Il y a beaucoup à faire au niveau des salaires, 4,5-5%. Il y a des débats dont on ne sortira pas pour savoir quel est l'écart exact, qui s'explique aussi par la posture des femmes, leur métier, leur carrière, etc. Mais faire monter les femmes dans les organigrammes, tout n'est pas fait, loin s'en faut, j'en suis d'accord. Je dis simplement qu'on a tous, nous, dans nos têtes, la nécessité évidente dans un pays comme le nôtre, une vraie et grande démocratie comme la nôtre, de faire une place aux femmes plus forte, plus marquée, de faire les efforts nécessaires pour que les choses se rééquilibrent le plus vite possible. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça mettra du temps, ça fait des millénaires qu'on fonctionne d'une certaine façon qui n'était pas satisfaisante. Il va falloir un peu de temps.
Judith Vintraube, est-ce qu'on peut être d'accord avec... avec Jean-Claude aujourd'hui, notamment sur cet écart de 4,5 à 5% sur l'écart salarial.
Ah oui, là, je suis tout à fait d'accord, ce sont les chiffres.
Moi, j'ai lu que c'était plus de l'ordre de 8-10%.
Mais non,
quand même.
Mais ça dépend.
Non. À poste équivalent, c'est entre 4 et 5%. C'est entre 5%.
Bon, mais ça veut dire qu'il y a encore du boulot, parce que 4,5%, c'est juste pas normal.
Je n'ai pas dit autre chose.
C'est trop, mais à mon avis, le patriarcat, aujourd'hui, il n'est plus dans nos sociétés occidentales, capitalistes et blanches. C'est pas ça le problème. Or, ce discours néo-féministe qui consiste à dire, on l'a entendu il n'y a pas longtemps, qu'en fait... Le patriarcat, la misogynie était l'héritage direct du système capitaliste occidental et est un discours qui vise à masquer la réalité. Le problème n'est plus là aujourd'hui, même s'il reste évidemment des efforts à faire en termes d'égalité salariale, en termes d'équipement de la société, je pense tout bêtement à la garde d'enfants pour qu'il n'y ait plus ces obstacles professionnels et de carrière. L'évolution des mentalités est faite, à mon avis.
Il nous reste 2 minutes. J'aimerais vous faire réagir à une information qui vient de nous parvenir. C'est que Emmanuel Macron, dans son hommage à Gisèle Halimi, grande défenseur de la cause des femmes, bien sûr, vient d'annoncer un projet de loi à venir sur l'inscription dans la Constitution, la constitutionnalisation de l'IVG. Je vous propose de l'écouter, le chef de l'État.
Aussi, les avancées issues des débats parlementaires à l'initiative de l'Assemblée nationale, puis éclairée par le Sénat, permettront, je le souhaite, d'inscrire dans notre texte fondamental cette liberté, dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois.
C'est une sage décision, en tout cas une sage initiative, selon vous, Benoît Mornay ?
Oui, c'est une proposition qui est venue de l'Assemblée, du groupe... NUPES et de Renaissance, donc qui a été reprise par le Sénat. Effectivement, je pense que ce serait un symbole fort de l'ancrer. Sur l'égalité professionnelle, l'écart aujourd'hui, effectivement, à poste équivalent, il est plutôt à 9. C'est inadmissible. Il faut qu'on aille vers l'égalité, vers l'obligation de résultat et pas seulement une obligation de moyens, parce que ces écarts, ils se retrouvent à la retraite et ça nous renvoie après à nos sujets.
Naïma Mfadel, en réaction peut-être à ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de l'État?
Oui, écoutez, je crois que la France a voulu absolument que ça soit dans la Constitution pour suivre un peu les États-Unis, mais je crois pas que ça aurait été remis en cause complètement. C'est un acquis. Et il n'y avait aucun problème. Bon, mais maintenant, c'est peut-être un message fort qui a été donné. Bah, écoutez, tant mieux.
Ça n'était pas nécessaire pour vous, Judith ?
C'était pas forcément indispensable. Ça va permettre, je pense, à Emmanuel Macron, puisqu'il évoque la voie parlementaire. Hein, c'est l'Assemblée et le Sénat réunis en Congrès. C'est beaucoup moins risqué qu'un référendum. Donc, ça lui permet de redorer son blason. C'est toujours ça de pris. Et puis, deuxième remarque, j'espère que les néo-féministes approuveront, puisque je rappelle que le planning familial était contre cette inscription dans la Constitution, parce qu'on parlait des femmes au lieu de parler de, des personnes.
Et ce le débat va avoir de l'intérêt. Ce qui est sûr, je vois pas très bien ce que l'avortement vient faire dans la Constitution.
Merci. Je voudrais juste rendre hommage à Marlène Schiappa qui a vraiment incarné la lutte contre les violences faites aux femmes.
Merci.
Et c'est dommage qu'elle n'ait pas continué à être ministre.
Voilà. C'est le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir pris part à cette émission aujourd'hui.
Ministre.
Dans un
non, mais ministre.
Et vous retrouvez
Jean-Paul voilà. Ferrari. Vous avez bien compris.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.